Vous écoutez France Musique.
Bonjour, une émission en effet particulière ce matin dans le cadre de l'été du Matin des musiciens. Ce qui était inscrit dans vos programmes était un écho à l'émission que j'avais consacrée avec Richard Martet au cours de la saison passée, aux œuvres de Giacomo Meyerbeer, aux œuvres rares, aux faces B, comme on disait, vous savez, du temps du 45 tours. Évidemment, la disparition de notre ami, de notre confrère, collègue Jacques Merlet, samedi 2 août à Paris, m'amène immanquablement à lui rendre hommage. Pourquoi ? Eh bien parce que d'abord c'était Jacques Merlet, il suffit de dire cela pour dire qui il était. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, il en est sûrement parmi vous, eh bien ça a été une des très très grandes voix de France Musique. Si je puis me permettre d'être un petit peu personnel, c'est en l'écoutant lorsque j'avais 16, 17 ans, même un petit peu avant, et ensuite encore à 18, 19 ans, et puis je dois dire que j'ai continué à l'écouter jusqu'au moment où il a arrêté de faire de la radio, contraint et forcé puisqu'il a eu une attaque cérébrale en 2000. Eh bien quand j'étais adolescent, quand je me suis retrouvé à m'intéresser à la musique et à décider d'en faire ma profession, eh bien, c'était là, quand on s'intéressait à la musique ancienne en particulier, c'était là qu'on apprenait mille choses, parce que Jacques Merlet était un puits de science. Et à l'époque, il faut se souvenir, je parle de la fin des années 70, alors qu'en était-il 10 ans avant, la musique ancienne était loin d'être le succès qu'elle est aujourd'hui. Il y avait des disques, naturellement, il y avait beaucoup de musiciens qui s'en occupaient et qui le faisaient très bien, mais en France, par exemple, l'enseignement, il n'y avait pas de classe de musique ancienne. Lorsqu'on était un jeune musicien et qu'on voulait se consacrer à ce répertoire, apprendre le clavecin, le chant baroque, le violon baroque, la viole de gamme, que sais-je, eh bien on partait à l'étranger. Et c'est pour ça que beaucoup de musiciens, je dirais, qui ont à peu près mon âge aujourd'hui, même un peu moins, entre 40 et 50 ans, sont partis en Hollande travailler aussi, parce qu'il y avait de très grands maîtres. Il y avait Gustav Leonhard, il y avait Ton Koopman, il y avait Bob Van Asperen, il y avait Jordi Savall à la Schola Cantorum de Bâle, et puis bien d'autres que j'oublie encore, mais c'était là-bas qu'on allait enseigner. Et puis, ce qui s'est passé ensuite, c'est que les conservatoires, au cours des années 90, se sont progressivement équipés de vastes départements de musique ancienne très sérieux. Et aujourd'hui, même si certains des jeunes musiciens baroques vont étudier à l'étranger, il y a bien sûr de très très grands professeurs dans les structures d'enseignement national. Et à cette époque, lorsqu'il n'y avait pas tout ça, je vous assure qu'écouter Jacques Merlet le dimanche matin lorsqu'il présentait sa rituelle cantate de Bach, l'entendre dans le cadre de ses matins des musiciens à cette même heure, ça commençait même un peu plus tôt et c'était un peu plus long, puisqu'à l'époque, le matin des musiciens durait 3 heures. Il y avait des musiciens qui venaient. Je me souviens avoir entendu Sophie Boulin donner un véritable cours d'interprétation sur les airs de cour de Michel Lambert. Je me souviens de Dominique Wyss qui venait seul expliquer les ornements et la façon de chanter les airs de Caccini, par exemple. Je me souviens de Dominique Wyss, le même, qui était un ami de Jacques, très proche. Je me souviens l'avoir entendu avec son ensemble Clément Jeannequin venir expliquer ce qu'était la chanson polyphonique française. Et Jacques Merlet, depuis la fin des années 60 qu'il travaillait sur cette chaîne, n'a cessé de s'intéresser à tout ce qui bougeait dans ce domaine de la musique ancienne, de la musique du Moyen-Âge, jusqu'à même après la musique baroque qui était un peu son dada principal. Mais vous savez que les musiciens dits baroqueux se sont attaqués progressivement à des musiques plus tardives, la musique du 19e et parfois même jusqu'au début du 20e. Et tout cela intéressait bigrement l'ami Jacques, qui aimait aussi la musique traditionnelle, la musique extra-européenne, et qui aimait même des choses un peu croquignolettes, il faut aussi le dire. Alors, Jacques, pour lui, j'ai eu l'idée d'un concert des anges. Les anges, parce qu'il est peut-être avec eux là-bas, je ne crois pas trop aux anges, j'aimerais y croire, j'espère qu'ils existent. En tout cas, chez lui, dans son appartement absolument merveilleux de la rue Jouffroy, où on allait tous autrefois, où il faisait des dîners pantagruéliques absolument extraordinaires, et où les jeunes musiciens se mêler aux jeunes producteurs de radio et aux jeunes journalistes, eh bien, il y avait des anges qui récoltaient un peu lors de ces voyages. Il y en avait partout sur les murs, donc j'ai pensé que les anges étaient d'agréables et d'amicaux compagnons pour lui, pour ce petit hommage. Écoutons un disque que je ne pense pas qu'il ait eu l'occasion d'entendre avant de mourir, parce qu'il est mort assez brusquement. Il n'était pas très bien depuis quelques années, mais enfin, il était dans une maison de retraite, un peu paralysé, privé de parole pour l'essentiel. Mais il adorait la musique toujours, il en écoutait beaucoup, et il se renseignait, et il demandait des disques à ses amis. Et je suis certain que ce disque qui va sortir dans quelques jours, dans un mois, de Skip Sempé, qui est le Requiem de Gilles, réaménagé pour les obsèques de Jean-Philippe Rameau en 1764. Je suis certain que ce disque l'aurait absolument passionné.
Thank you. Redetur, redetur, vado mince. Oh.
extraordinaire version, version discographique et version musicologique du Requiem de Jean Gilles que vous venez d'entendre, qui n'est pas encore paru, qui va paraître dans un mois et quelques jours, je crois que c'est le 9 septembre, sur le label Paradiso, qui est le label qu'a fondé Skip Sempé. Skip Sempé qui est le chef d'orchestre de ce disque, vous l'avez entendu. On passe de Jean Gilles à Jean-Philippe Rameau, à ses opéras. C'est comme cela que ça a été donné pour les funérailles de Jean-Philippe Rameau en 1764. Les arrangeurs, qui étaient probablement rebelles et francs-cœurs, ont introduit des extraits de Castor et Pollux, des extraits de Dardanus, là, dans ce contexte funèbre. Et je dois dire que musicalement, ça fonctionne très très bien. C'était Judith von Van Roy, Robert Getchell, Juan Sancho et Lisandro Abadi, qu'on n'a pas tous entendu d'ailleurs dans cet extrait. Le Collégium Vocal de Gand, qui en est donc à sa troisième version du Requiem de Gilles, si les comptes sont bons. L'ensemble Capriccio Stravagante, les 24 violons, les deux ensembles de Skip Sempé, et le chef d'orchestre et claveciniste qui dirigeait tout cela avec un geste large. Et je connaissais suffisamment bien Jacques Merlet, à qui je rends hommage ce matin, pour dire qu'il aurait sûrement été absolument excité comme une puce par ce disque sur son lit dans sa villa Le Courbe, où il se trouvait depuis quelques années. Il était bien installé dans une chambre qui n'avait rien d'une chambre d'hôpital, parce que c'était pas un hôpital d'ailleurs, entouré de disques, de livres, de journaux qui jonchaient son lit, avec la télévision branchée quasiment tout le temps sur Mezzo. Il ne cessait de regarder les opéras, les concerts, et puis de se renseigner. Je me souviens, il prenait Diapason, il entourait rageusement les références de certains disques, en me faisant comprendre que la fois d'après, il fallait que je les lui rapporte. C'est vous dire qu'il avait envie d'entendre toujours ce qui se passait. Je sais aussi qu'il s'intéressait à des musiciens qu'il ne connaissait pas. Il savait qui était Jean Rondeau, par exemple, ce jeune claveciniste dont on a beaucoup parlé, qu'on a souvent entendu sur France Musique, qui l'intéressait beaucoup. Il s'intéressait au jeune pianiste Adam Laloum, je peux le dire, puisque on me l'a répété. Et c'était toujours, toujours le même bonhomme à 83 ans, avec cette passion qu'on a si souvent entendu sur l'antenne de France Musique. Et parmi les jeunes musiciens qui étaient proches de lui, il y en a beaucoup, je ne peux pas tous les citer. J'ai cité Sophie Boulin, Dominique Vie, sur Guillemette Laurence. On va parler tout à l'heure de Florence Malgoire. Il y a Sophie Boulin, je l'ai dit. Il y a Pierre Antaille, tous les frères Antaille d'ailleurs. Et puis combien d'autres, Skip Sempé à l'instant, qui était aussi un proche. Et combien d'autres. Mais Jacques Merlet a évidemment contribuer à découvrir, à faire connaître au plus grand nombre des musiciens aujourd'hui qui sont tous de très très grands noms. Parmi ceux-ci, eh bien, il y a évidemment William Christie, que Jacques avait repéré tout de suite dès ses débuts en France. Il y avait Jordi Savall, qu'il a été l'un des premiers à faire connaître en France aussi, par ses émissions. Jacques avait une passion pour l'Espagne, où il allait souvent. Et donc évidemment, il a croisé le chemin de Jordi Savall très très vite. Philippe Hervègue, moi je me souviens, à l'époque j'étais chanteur, je travaillais avec Hervègue à la fin des années 70 et jusqu'au début des années 90. Et je me souviens que Jacques Merlet était là avec son équipe, avec ses assistantes, avec Chantal Barquisseau en particulier, ou Perrine Mingui et d'autres. Et tout cela, avec les micros de France Musique, suivait tout ce qui se faisait dans la musique ancienne et en donnait l'écho sur notre chaîne, sur cette chaîne qui est la mienne maintenant, tant d'années après. Et parmi les jeunes musiciens qui allaient souvent le voir et qui l'admiraient beaucoup, il n'est pas le seul, mais il est sûrement l'une des principales figures, c'est Benjamin Allard. Benjamin Allard, qui est, vous le savez, claveciniste et organiste. Alors Jacques, j'ai eu l'occasion de l'écrire un petit peu fautivement dans Le Monde ce week-end. En fait, Jacques n'a pas pu entendre véritablement Benjamin Allard à ses débuts, avant son attaque cérébrale de 2000, puisque Benjamin Allard était alors un bambin encore, il y avait une quinzaine d'années, mais il le connaissait, il se connaissait déjà, puisqu'il était allé à Rouen, qui était la région natale de Benjamin Allard, et ils avaient visité des orgues ensemble, et donc il l'admirait énormément. Et puis ensuite, Benjamin a fait la carrière qu'on sait, fait les disques qu'on sait, et Jacques Merlet avait pour lui une très très grande affection. Voici, dans ce concert des anges qui veille sur notre ami Jacques, une très très belle ouverture d'art français, j'y arrive même pas à le dire, art, c'est-à-dire d'après l'art français, c'est une très très belle pièce à la française de Bach, bien sûr.
Thank you.
L'ouverture dans le style français de Jean-Sébastien Bach, une ouverture étant à la fois ce premier mouvement que l'on retrouve dans les ouvertures d'opéra de la même époque, des tragédies lyriques françaises, et étant le nom que l'on donnait aussi à la suite tout entière. Ça, c'était le premier mouvement de ce très bel enregistrement qu'a fait Benjamin Allard, ou Benjamin Allard, comme je devrais davantage dire, au clavecin, l'un de ses très beaux disques. Et Benjamin était un ami proche de Jacques Merlet et l'un des interprètes de la jeune génération qu'il admirait le plus. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu vous faire entendre ce matin, en hommage à notre confrère et notre ami Jacques Merlet, disparu le 2 août, auquel je rends hommage ce matin dans cette émission exceptionnelle qui remplace celle qui était naturellement prévue. En avril, il y a une fête pour Jacques, une fête où d'ailleurs il vendait des tableaux qu'il peignait, car il peignait également, et les profits de cette vente ont été reversés à des organisations caritatives. Et au cours de cette soirée, il y a eu de la musique, évidemment, et un peu d'alcool aussi, il faut bien le dire, parce qu'il y avait toujours un peu d'alcool quand Jacques était là. Il aimait bien boire, il aimait bien manger, il cuisinait divinement bien. J'ai été souvent dans sa cuisine, la rue Jouffroy, et je peux vous dire qu'on mangeait vraiment très très bien chez lui, et que la compagnie autour de la table était toujours du meilleur goût, ou parfois du meilleur mauvais goût, parce qu'on racontait quand même les pires horreurs. Mais c'est ça qui était bien. Et il en racontait aussi à l'antenne. Ceux qui l'ont connu à l'antenne de France Musique, il y a encore à peine 15 ans, s'en souviennent. Jacques pouvait partir parce qu'il improvisait. Il était de ceux qui, évidemment, n'écrivaient pas grand-chose sur le papier et qui partaient à l'aventure. Je me souviens d'un soir, je vois cette pendule qui est devant moi, qui marque l'heure. C'est une pendule, vous savez, où chaque seconde est marqué par un point rouge. Je me souviens qu'il parlait d'une œuvre de la Passion du Christ et qu'il disait que finalement, ce qu'il voyait, parce qu'il disait finalement toujours, chaque goutte de sang de cette pendule était les gouttes de sang du Christ. Écoutez ceci. Le sublime air d'alto, Herr Barmedy, extrait de la Passion sans Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, vous avez entendu là par René Jacobs, avec Florence Malgoire. Florence Malgoire, une amie proche aussi de Jacques Merlet, qui a enregistré cela il y a 30 ans déjà. C'est une version qui a été faite en 84, figurez-vous. Et c'est bien sûr l'Orchestre de la Chapelle Royale, dirigé par Philippe Hervègue, la première de ces versions de la Passion sans Saint Matthieu de Bach, à moins qu'il en ait fait trois. Non, je crois qu'il n'en a fait que deux pour le moment. Et Florence Malgoire, eh bien, était aussi à cette fête que j'évoquais il y a quelques mois, en avril. Aux côtés de Jacques, de son ami Jacques, elle avait joué, accompagnée par Laurence Stewart, une sonate du Rosaire de Bieber. Florence toujours là, et puis Benjamin Allard, que j'évoquais, qu'on entendait tout à l'heure, a joué aussi. C'était pas prévu, mais il s'est mis au clavier. Et il a joué de chic une pièce pour son ami Jacques. C'est comme ça que cela se passait, sans façon. Et puis, nous avons tous regardé un peu ces tableaux et nous avons fait des petits achats. Et pour ma part, je me souviens, je ne sais pas pourquoi, j'ai acheté un tableau dont je me suis aperçu qu'il s'appelait La Mort, figurez-vous. Et oui, Jacques Merlet avait peint ce tableau très foncé, dans des teints marron, vert, assez beau, assez tonique en même temps, avec ce titre qu'il avait tracé de sa main, un peu étrange, forcément prémonitoire. Nos morts sont toujours prémonitoires et certaines, comme dirait l'autre. Écoutons maintenant une autre amie de Jacques, avec qui il a fait beaucoup de choses à la radio. Je l'évoquais tout à l'heure, Sophie Boulin, et ses fameux Matins des musiciens sur les airs de Michel Lambert. Et Sophie était là l'autre jour à cette fête aussi en avril. La voici dans une des plus belles choses qu'elle a faites au disque. C'est un extrait d'Alessandro de Handel. Elle est accompagnée par la petite bande dirigée par Sigurd Salkøyken.
Thank you.
Voici une manière amicale et tendre de chuchoter des choses un peu mélancoliques, bien sûr, à l'oreille d'un disparu. C'est Sophie Boulin qui, évidemment, lorsqu'elle a enregistré cet Alessandro de Händel avec Sigurd Valkeuken et la petite bande, était loin d'imaginer la fin de son ami Jacques Merlet. Mais j'ai trouvé que c'était une chose qui pouvait convenir. On va rester dans cette atmosphère d'élégie, mais d'une élégie, vous allez l'entendre, avec un sourire un peu plus franc. Les anges planent toujours au-dessus de nos têtes et de Jacques Merlet. Et c'est bien sûr une cantate de Bach. Comment ne pas vous faire entendre une cantate de Bach, en tout cas un extrait d'une cantate de Bach, puisque Jacques Merlet, pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, c'était aussi les émissions du dimanche matin, où chaque dimanche matin, il y avait une cantate, la cantate du jour. Et il a fait des cycles entiers, il complétait l'audition de la cantate par d'autres œuvres. C'était toujours extrêmement intéressant. Voici, pour rester dans la même atmosphère, disais-je, avec aussi ces flûtes à bec que l'on retrouve dans cette cantate Actus Tragicus, la version qu'avait dû diffuser Jacques à l'antenne, puisque l'intégrale faite par Nicolas Sarnoncourt et par Gustave Léonard est évidemment l'une des principales qu'il utilisait, même si ensuite de nouveaux musiciens, Philippe Hervé, qu'on a entendu tout à l'heure notamment, mais d'autres se sont mis à leur tour à enregistrer ce répertoire.
Thank you. stelle dein Haus, wenn du wirst sterben und ich lebe nicht bleibe. Denn du wirst sterben, denn du wirst sterben und nicht lebendig und nicht lebendig bleibe. Denn du wirst sterben. Bestell dein Haus,
extraordinaire silence après cette volute, la volute d'un ange qui choie, Cela tombe bien puisque je vous ai dit que cet hommage à Jacques Merlet était sous l'égide des anges. Ces gens, ces anges qu'il aimait tant et dont son appartement était parsemé, des figurines en stuc, je me souviens, accrochées au mur, dans un Capharnaüm absolument extraordinaire. Ces intégrales des cantates de Bach, cette intégrale qui prenait déjà tant de place, tant de micro-sillons, puis de CD, et puis des objets, des tambours. Il y a une photo d'ailleurs, allez voir sur le site de France Musique, à la rubrique Actualité. Il y a une photo de Jacques Merlet dans son appartement, que tant d'entre nous ont bien connu, où il recevait volontiers, notamment après ce concert du dimanche, où tout le monde se retrouvait pour déjeuner, le concert du dimanche où il présentait cette cantate et où il a présenté un jour cette cantate Actus Tragicus qu'on vient d'entendre, l'interprétation de Gustav Leonhardt, avec, je pense que c'était Sébastien Hennig qu'on a entendu, qui était le garçon soprano, le Hanover Chor, le Knabenchor Hanover, le Collegium Vocal de Gand, le Leonhardt Consort dirigé par le grand Gustav Leonhardt, qui est parti quelques mois avant Jacques Merlet, vous le savez. On va entendre maintenant un peu Jacques. On l'a entendu ce matin chez Thierry Beauvert parler avec son grand ami Scott Ross, qui logeait souvent dans cet appartement. Il y avait, je me souviens, une balustrade. Je crois qu'on la voit sur la photo que j'évoquais à l'instant, une balustrade et une sorte d'alcôve. Et c'était là que logeait Scott, quand Scott est arrivé très très jeune, presque encore adolescent, et que Jacques l'a pris sous son aile et l'a fait aussi connaître. Enfin, Scott Ross avait un talent extraordinaire, mais Jacques ne l'a pas raté, ce talent-là. Eh bien, écoutons Jacques avec un autre talent qu'il a très vite révélé, parce que l'orgue était évidemment le centre de sa passion. Et il a fait des centaines d'émissions sur l'orgue, sur France Culture d'abord, puis sur France Musique, la fameuse renaissance des orgues de France. Voici un exemple de ce que cela pouvait donner. Il est avec Jean Boyer.
Bonjour, nous allons refermer ce dossier sur l'orgue François-Henri Clicquot de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, avec un concert, je pense, qui trouve tout à fait sa place en ce jeudi saint. J'espère que vous êtes en vacances et vous allez pouvoir profiter de l'écoute de ces pièces d'orgue qui vont être jouées par Jean Boyer, qui est ici avec nous et qui va présenter avec moi donc ces différentes pièces. Et nous avons choisi des œuvres de Marchand, car l'œuvre de Marchand sonne admirablement sur ce chef-d'œuvre de François-Henri Clicquot. En effet, il y a un plénum éclatant, des anches éclatantes, un fond d'orgue rêveur à souhait. Et je crois, Jean Boyer, qu'on ne peut pas rêver orgue plus intéressant et plus adéquat à l'œuvre de Marchand.
Oui, il y a tout pour plaire dans cet instrument. Et qui plus est, l'œuvre d'orgue de Marchand compte quand même parmi les monuments de la musique d'orgue française.
Oui, c'est un personnage tout à fait étonnant, Marchand, organiste, concertiste. Un homme aussi au caractère assez violent, un homme paradoxal, une sorte de presque de neveu de Rameau.
Oui, c'est ce qu'on raconte. En fait, son épouse nous a laissé quelques...
Ah bon ?
Il y a des histoires qui courent comme ça. Son sujet. En fait, c'était un personnage extrêmement violent, extrêmement bon, qui s'adonnait plus ou moins à la boisson, paraît-il. Et les économies du foyer étant dilapidées ainsi dans les débits de boissons, la femme de Marchand était allée trouver le roi lui-même pour lui demander à ce que ses émoluments lui soient directement versés et ne passent pas par son mari.
Ah bon, donc c'est une formule qui a eu des précédents.
Absolument.
Dans le domaine de la musique. Bon, ce qui est aussi intéressant de Marchand, c'est que c'est un très très grand musicien. Il a écrit des pièces de clavecin qui sont parmi les plus belles du début du XVIIIe siècle.
Et on vouait d'ailleurs pour ce musicien à cette époque-là un véritable culte. En fait, lorsqu'on a retrouvé ces partitions pour orgue, il est porté sur la première page les œuvres d'orgue de feu le grand Marchand. C'était du grand Marchand. Enfin, c'était un personnage extrêmement estimé et très très envié.
Oui, qui cumulait des tribunes, par exemple, celle des Jésuites, celle de Saint-Honoré, celle des Cordeliers, celle de Saint-Benoît. Enfin, il collectionnait toutes ces tribunes. Eh bien, moi, je vous propose maintenant d'entendre une pièce du premier livre d'orgue. Il s'agit d'un plein jeu. Plein jeu que vous allez jouer donc sur cet orgue de Poitiers. C'est un plein jeu en gloire, on peut dire, à Poitiers.
Oui, toutefois, il faut préciser que le plein jeu de Marchand est un plein jeu à double pédale. C'est une chose assez unique dans la musique d'orgue française. Et il demande également une grande étendue au pédalier, puisque l'étendue, l'ambitus général de l'œuvre est du la, du ravalement, du contre-la, jusqu'au troisième fa. Or, à Poitiers, malheureusement, le pédalier ne s'arrête que au troisième ré, et j'ai dû donc demander à Jean Baudet de faire la troisième main, et il me joue sur la trompette du positif la partie de pédale. Pour cette raison, le plein jeu du grand orgue sera le seul dans ce grand plénum à être entendu.
Très, très belle musique, celle de Marchand, Louis Marchand. Musique noble, pleine, avec ce son extraordinaire de ce cliquot de Poitiers. Jacques Merlet, avec Jean Boyer, à l'époque, avait enregistré pour ses émissions ses instruments de cliquot, celui de Souvigny, celui de Poitiers, auquel il avait consacré de nombreuses émissions, et même celui de Paris, de Saint-Nicolas, dont Boyer était aussi le titulaire, Et ce qui est intéressant dans ces émissions, quand on les réécoute 30 ans et 35 ans après, parce que ça, ça date du début des années 80, c'est qu'on entend les instruments avant restauration. Alors, la plupart du temps, les restaurations ont été bien faites, mais parfois pas toujours. Donc, c'est dire que ce sont des documents d'archives à tout point de vue, des documents vraiment historiques. Et puis, il y a dans ces émissions des moments extraordinaires, des dialogues avec des facteurs, avec des instrumentistes, avec des historiens, tout ça remué autour de Jacques d'une manière extraordinaire. Et j'évoquais ces voyages qu'il faisait avec ses assistantes, avec ses réalisatrices, parce que c'était surtout des femmes, pas toujours, et qui le suivaient parce qu'il arrivait à ouvrir des églises à 23 heures, à déranger des curés alors qu'ils dormaient. Et Jacques arrivait toujours à trouver la clé de quelque part. Il avait la clé de cette parade sauvage. Citation rimbaldienne qui me vient à l'esprit. Alors, quelques petites choses à vous dire. Pour ceux qui voudraient être à l'enterrement de Jacques Merlet, en tout cas la cérémonie religieuse, c'est jeudi à 11h à l'abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux. Et je crois pouvoir vous dire aussi, avec l'autorisation de la famille, que Benjamin Allard devrait y jouer. C'est aussi une occasion d'y être. C'est une première chose. Pour ma part, on ne va pas en rester là, évidemment. Et à la rentrée, je peux vous dire d'ores et déjà que je ferai une série d'émissions en hommage à Jacques Merlet. Et j'espère que les musiciens qui n'ont eu la parole que par la musique, mais c'est bien l'essentiel, mais en tout cas que les musiciens que j'ai cités aujourd'hui et d'autres encore viendront parler à mon micro et que nous pourrons faire un bel hommage bien mérité à ce grand bonhomme qu'était l'ami Jacques. Et comme c'était un homme gai, il aurait été gai jusqu'à la fin, eh bien j'ai trouvé que le seul carillon des morts qui lui allait était celui de Michel Corrette. Un carillon des morts, eh bien oui, ça peut être gai. Un carillon des morts, et tant mieux, il faut le rester, même si la disparition de Jacques Merlet, auquel j'ai eu l'honneur et le plaisir, je dois dire, de rendre hommage aujourd'hui, et bien sûr attristante. Musique Antiqua Cologne, Philippe Hervègue dirigeait cela. Merci à l'équipe qui m'entourait, José Bernays, Antoine Giraud, Lee Tarquia, Céline Tranouvelle qui m'a aidé à préparer cette émission, et Sylvie Migaud qui l'a réalisé. Je vous retrouverai tout à l'heure pour le concert vers 12h35.